On se prend au jeu.
Alors, salut, c'est Gilles Biron, j'ai 28 ans, je fais de l'athlétisme à haut niveau en équipe de France sur le 400 mètres. Je suis récent vice-champion du monde sur le 4x400 mètres avec l'équipe de France. Et bienvenue sur le podcast On se prend au jeu.
On se prend au jeu, Nicolas Ledin sur RCI.
Salut Gilles.
Salut.
Est-ce que tu peux m'expliquer où on se trouve ici ?
Alors là, on est à côté de la piscine de Bron, dans la salle de musculation. C'est juste à côté du stade de Bron aussi, Pierre Dubœuf.
Donc c'est ici que tu t'entraînes, c'est ici que tu te prépares. Tu passes combien de temps par semaine ici ?
Beaucoup de temps, c'est à peu près 20-25 heures par semaine, dans les semaines les plus busy, comme on dit. On alterne entre séances de musculation, de PPG, et puis au stade, séances de course, dans les escaliers aussi, on fait des choses. Et ouais, c'est une grosse partie de mon temps passé dans la semaine. Je me sens très bien ici, ouais, je viens à vélo, c'est une vie assez simple et qui me convient bien.
Est-ce que tu es quelqu'un qui a une routine quotidienne, qui a des habitudes très posées ou pas forcément
Enfin, j'ai mes petites habitudes, ouais. Finalement, oui, mais j'ai pas peur non plus de m'écarter un peu de ces habitudes, surtout qu'on va en stage et tout. C'est pas quelque chose auquel je suis vraiment attaché. J'aime bien me sentir bien et puis c'est tout, quoi.
Est-ce que tu as un petit déjeuner typique par exemple ? J'ai vu sur un sac que tu mangeais des sardines au petit déj sur une vidéo.
Oui. Ouais, j'aime bien manger des sardines, principalement avec de l'avocat, c'est le summum de. Du bon petit déjeuner, avocat, tartine, et puis je mange aussi des fois une sorte de pancake, c'est un pote qui m'a donné la recette, pancake aux flocons d'avoine, c'est juste un œuf et des flocons d'avoine qu'on mélange, et après dans la poêle ça fait un petit pancake, et c'est simple et bon, il y a la part de protéines, part de fibres avec les flocons d'avoine, donc c'est bon. J'aime bien cuisiner, et puis en plus quand c'est simple comme ça, c'est parfait, le matin c'est rapide.
On va reparler de cuisine tout à l'heure, parce que j'avais vu ça sur ton Insta. Pour savoir un peu ton quotidien, la prépa, tu m'as dit, c'est à peu près 25 heures par semaine, c'est ça en ce moment?
C'est une vingtaine d'heures et tout. Après, bon, dans la prépa, on peut rajouter aussi les moments de repos avec le kiné, et aussi des fois je vais en cryothérapie, des choses comme ça, donc je mets ça un peu aussi quand même dans les heures d'entraînement, même si c'est de l'entraînement passif, on va dire.
Est-ce que tu travailles à côté ? T'as un boulot ?
Ouais, là j'ai un travail, mais bon, ça va bientôt se finir, dans un bureau d'études de logistique urbaine, qui s'appelle Interface Transport sur Lyon. Et donc en gros, je faisais des études sur tous les flux de généralement les flux de marchandises spécifiquement dans la ville, quoi. Ça, c'est lié à mon master urbanisme et environnement. C'était un emploi aménagé, mais c'était quand même assez compliqué de lier les deux. C'est une petite entreprise et il fallait que je sois beaucoup absent lors des championnats et tout. Au début, on s'était dit que ça allait fonctionner, mais finalement, ça ne va pas pouvoir le faire puisque avec les JO, il y aura encore plus d'absence. Ce n'est pas la taille d'entreprise parfaite pour ce genre de projet-là.
Mais c'est révélateur de quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'athlètes comme toi qui doivent travailler pour pouvoir vivre, c'est pas que le sport de niveau, c'est pas que tout beau, tout rose. T'as été pion aussi, je crois, j'ai fait comprendre pendant un temps.
Oui, c'est vrai que ben, en tant qu'athlète, dans l'athlétisme même, c'est compliqué d'en vivre. On est un peu dans une zone grise en fait. On a un bon niveau, mais on n'est pas non plus champion olympique ni champion du monde. Et donc à ce moment-là, on a un peu de mal à joindre les deux bouts, donc on est obligé de travailler à côté. Donc ouais, j'ai fait plusieurs petits jobs comme pion, on appelle ça AED, assistant d'éducation dans un lycée, c'était dans un internat, donc c'était le soir et tout, ça me permettait d'être un peu plus libre de la journée. Et puis j'ai fait un peu la même chose aussi dans une école primaire. Mais c'est, même dans ces cas-là, c'était toujours un peu compliqué de me mettre à 100% sur l'athlétisme. C'est ce que j'ai envie de faire. Et m'éparpiller un peu partout, ça me va pas trop bien.
Tu as évoqué donc des études. Tu as un Master 2 en urbanisme et environnement. Ça aussi, c'est révélateur. Ça veut dire que pendant longtemps, tu t'es dit que c'était important malgré tout de faire des études parce que tu n'étais pas certain que le sport, tu allais pouvoir en vivre, c'est ça ?
Ouais, et puis en plus, il faut savoir que j'ai commencé l'athlétisme à 19 ans. Donc quand j'ai commencé, j'avais pas des grandes ambitions, enfin j'avais peut-être des ambitions, mais j'avais pas non plus un niveau me permettant de dire que j'allais être vice-champion du monde. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé mes études, j'ai fait une licence en géographie en Martinique, Donc c'était juste dans la logique que je continue dedans. J'ai fait mes 3 ans. Après, je faisais des championnats de France. J'ai décidé d'aller en France pour continuer les études à l'origine, avec le master. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai fait ma première sélection. Donc j'étais en master 1, je fais ma première sélection d'équipe de France. Donc j'allais pas m'arrêter à juste master 1 et me consacrer qu'à l'athlétisme. Donc c'est ça. Et puis bon, j'avais quand même déjà cette mentalité de il faut s'assurer de l'avenir avant de se mettre qu'à un seul sport. Parce qu'en natation, je faisais natation avant et j'avais envie d'aller plus loin. Mais bon, en Martinique, les infrastructures sont peut-être un peu moins bien dotées. Et j'avais déjà ce truc de me dire ben, il faut faire les études avant de se donner une chance dans le sport.
Sur ton profil LinkedIn, il y a écrit athlète et urbaniste. Rassure-nous, tu es quand même avant tout athlète actuellement.
Ouais, quand même, je suis avant tout athlète. Même avec le métier que je fais, je suis quand même à 70% sur les pistes et 30% en entreprise. Donc je suis avant tout athlète. Mais peut-être que ça serait quand même mieux d'être 100% athlète, en tout cas pour la période de ma fin de carrière, on va dire, pour me donner le plus de chances pour gagner des médailles.
On va rembobiner, tu es né en Martinique en 1995. Tu peux me parler de ton enfance? C'était une enfance heureuse, tu dirais?
Ouais, une enfance heureuse. De mon souvenir, c'était que j'allais souvent chez ma mamie, à Fort-de-France, près de Cluny. Et bon, j'allais à l'école à pied, j'étais dans le quartier, j'allais à Pointe-des-Nègres, là c'est Suzanne aussi l'école. Après j'ai été à Périnon et après j'ai été à Bellevue. Donc franchement c'était les points forts de mon enfance, c'était toujours faire à pied mamie, de chez mamie à l'école. Et puis à côté il y avait la savane et tout avec des bœufs. Donc ouais, puis en plus il y a le jardin de mamie, il y avait des fruits, des pommes de citerne, guayave, mangue. Mandarine, on montait dans les arbres pour prendre les meilleurs fruits. Donc c'était un peu ça mon enfance. Et puis bon, à côté il y avait quand même beaucoup le sport avec l'athlétisme, enfin la natation avec la natation. Et donc ouais, ça se rythmait un peu comme ça mes journées.
T'as grandi avec des frères et sœurs, des cousins?
Ouais, j'ai un grand frère, Arnaud. Et puis justement chez ma mamie il y avait toutes mes tantes avec mes cousins et cousines. Et donc, c'est presque mes frères et sœurs. Hein. On se voyait tous les jours et tout. On rigolait, on jouait à la PlayStation ensemble. Au jeu en général, quoi. Et on était vraiment soudés. Jusqu'à maintenant, on est sous des groupes WhatsApp. On est un peu plus éparpillés puisque j'ai un cousin qui est à Prague. Mais il est venu au championnat du monde à Budapest avec mon frère. C'était une belle enfance, oui.
T'étais un bon élève à l'école?
Pas trop. Enfin, j'étais un élève plutôt moyen, on va dire. Je sais pas si je peux dire que j'étais un peu fainéant, mais je fournissais le nécessaire pour avoir plus que la moyenne, mais après pour avoir les 20 et tout. Enfin, il aurait fallu, je pense, hein, après c'est facile de dire ça, que je me mette plus sur les études encore plus. Parce que j'avais quand même la natation à côté qui me prenait beaucoup de temps. Je finissais à 21h la natation. Je rentre, j'étais fatigué. Je faisais vite fait 2-3 exos peut-être, mais après je m'endormais dessus. Donc c'était beaucoup de concentration. Lors des cours, j'essayais de revoir vite fait, mais c'était compliqué. Mais j'étais pas un mauvais élève. J'ai quand même eu mon bac avec mention assez bien, presque que bien. Mais bon. Donc j'avais le potentiel de faire mieux, mais c'était
le minimum.
Ouais, je faisais le minimum.
Tu es issu d'une famille de sportifs? Est-ce qu'autour de toi, les gens faisaient du sport? Qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs vers la natation?
Oui, on peut dire que c'est une famille de sportifs. Avec mon père, on faisait beaucoup de marches. Il n'a pas été sportif de haut niveau, hein, mais il avait toujours ses intentions de bouger tout le temps. On faisait de la marche, on a fait de la plongée. C'est avec sa compagne, à ce moment-là, qu'il y avait ses enfants qui faisaient de la natation, qui m'ont un peu initié à ça. Je faisais de la natation en école de natation, mais eux, ils étaient vraiment en club de compétition. Donc j'ai voulu un peu suivre là, à ce moment-là, et je suis rentré à l'Espadon. Par leur biais du coup, et c'était des belles années de compétition, d'amitié aussi avec ceux que j'ai rencontrés là-bas. C'est par ça que j'ai commencé à avoir cet esprit de compétition, cette assiduité à avoir aussi aux entraînements, parce que la natation c'est pas vraiment un sport ce qui est très drôle finalement.
Ouais, c'est ingrat, on gagne des centièmes à regarder le fond de la piscine.
Ouais, c'est ça. Les coachs ils sont assez durs aussi, donc il y a eu cette éducation de rigosité.
Rigueur,
ouais. Et voilà, ça m'a appris tout ça, ouais.
Alors, découverte tardive de l'athlétisme, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais me mettre à l'athlétisme?
Mais il y a plusieurs histoires, on va dire, que j'aime bien raconter. On va dire la plus drôle, c'est le fait de... on a essayé de me voler ma chaîne à la sortie du lycée et j'ai couru et on ne m'a pas rattrapé. J'ai lâché mon sac et tout, ils avaient attrapé mon sac, je l'ai lâché. Ça, c'est pour l'histoire drôle, on va dire. Mais la vraie histoire, quand même, c'est... on a fait l'épreuve du bac 3x500 et je courais au même niveau qu'un athlète qui faisait du 800 à ce moment-là, sans forcément faire de séance d'athlétisme. Et donc, du coup, ma prof m'a conseillé de faire de l'athlétisme. Et il y avait aussi des camarades qui m'ont dit, qui faisaient de l'athlétisme aussi, qui m'ont dit que je devrais m'inscrire. Donc, à la fin de l'année de bac, quoi, j'ai commencé à faire de l'UNSS un peu. Et je me suis inscrit finalement au CSB Limois. À ce moment-là, c'était au Lamantin. J'ai rencontré mon premier coach, Laurent Roche, et de là est née cette passion, c'est ça.
Ça veut dire que la natation t'avait quand même donné une grosse caisse pour pouvoir faire
ça. Oui, clairement, ouais. Quand je suis arrivé en athlétisme, j'avais un gros cardio que je garde toujours un peu, et on m'appelait 4 poumons, c'est ça. Et puis même en natation, on m'appelait Bekele. Bon, je suis pas devenu le même type de coureur, ouais, du tout. Mais il y avait déjà ces aptitudes à courir bien, quoi, comparé à d'autres personnes. Et donc, c'était un peu logique, quoi, finalement. Même si on m'a un peu tanné avec. Pendant 3-4 ans, on m'appelait Bekele, on me disait tu courais vite, nanana. Et je n'ai pas passé le cap. C'est après, je me suis dit, bon, en natation, ça stagnait peut-être un peu. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester autre chose. Et puis voilà.
Et pourquoi le 400 ? C'est un choix perso ou c'est tes qualités qui se sont plus exprimées sur cette distance-là ?
Ouais, c'est plus mes qualités qui se sont exprimées parce qu'au début, j'ai commencé par du 800. Mais je n'avais pas cette base de vitesse et tout. Donc, avec mon coach, on faisait plus des séances axées vitesse. Et même en compétition, il me disait, bon, on va faire quelques 400 pour travailler un peu l'explosivité et la vitesse. Et donc, de fil en aiguille, j'ai réussi des bons chronos sur 400. On s'était donné comme objectif de... peut-être faire 45 au 400 et repasser sur le 800. Mais pour le moment, j'ai fait 45 et j'ai pas envie de repasser sur le 8. Mais j'oublie pas le 800 quand même. C'est vraiment une discipline que j'aime bien aussi. Je me débrouillais plutôt bien et peut-être un jour que si je stagne trop en 400, que je vais peut-être remonter sur 800.
Est-ce qu'on peut revenir sur ton départ de Martinique ? Ça s'est fait pour les études ou pour les deux, l'athlète et les études ?
Principalement pour les études, parce que comme quand je suis parti de Martinique, j'avais fait cette année-là, j'ai fait 5e au championnat de France espoir. J'étais passé aux listes de haut niveau, j'étais personne, quoi. Donc j'étais assez lucide sur le fait que j'allais pas en France pour mieux m'entraîner, surtout qu'en plus le coach que j'avais à cette époque-là, il me convenait parfaitement. Et même jusqu'à aujourd'hui, je retourne vers lui pour avoir des conseils parfois.
C'est vraiment. Ouais, t'es toujours licencié en Martinique d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui. C'est un ami, un peu plus qu'un ami, Laurent et tout. Et franchement, c'est l'un des meilleurs coachs que j'ai pu avoir. J'avais pas le niveau pour espérer dire ouais, bon, je fais un voyage pour l'athlète, quoi. Surtout de cette ampleur-là, quoi.
T'as fait tes premières grosses perfs, on va dire, à partir de 2016-2017. Et ce qui t'a vraiment mis dans la lumière, c'est le titre de champion de France 2021. T'avais 26 ans. C'est pas un parcours classique, hein, que d'éclore à cet âge-là.
Ouais, mais finalement, c'est dans la logique des choses. Commencer à 19 ans, du coup, 5 ans plus tard, faire un titre et tout, comme ça, c'est dans la logique, je dirais. J'ai pas été trop vite. Il y a quand même eu des bas, quoi, puisque justement, 3 ans avant ce titre-là, j'étais sujet à des blessures aux ischios, pubalgies et tout comme ça. Et dès que j'ai changé d'environnement, que j'ai eu moins de blessures, les performances ont suivi, tout simplement. Il n'y a pas trop de secrets là-dessus. Il faut bien s'entourer, éviter la blessure. Bon, elle est toujours présente, malheureusement, mais sans blessure grave, on progresse forcément mieux, quoi.
Tu ne t'étais pas fixé de plan, ça veut dire. C'est venu au fur et à mesure et tu as fixé les ambitions au fur et à mesure, c'est ça ? Il n'y a pas trop de pression à cet égard ?
Les ambitions, je me les suis fixées vraiment courant 2020-2021. Où il y avait les JO. J'ai eu la chance d'avoir une préparatrice mentale qui m'a fait des séances gratuites à ce moment-là. Et on a vraiment fixé un plan et tout à ce moment-là. Mais avant, pour partir de Martinique, je n'avais pas le plan de faire les Jeux Olympiques de 2020 comme ça, quoi.
Est-ce que tu peux me parler de Franck Matamba? C'est ton coach ici à Bron. C'est plutôt une petite structure, c'est ça, que vous avez développé ici?
Quand je suis arrivé avec lui, du coup, il m'a orienté vers des médecins, des kinés qu'il connaissait et qui suivaient déjà ses athlètes. Parce qu'il a eu des athlètes qui ont réussi avec Estelle Pérossier, qui était sélectionnée en équipe de France aussi. Il y a Marine Mignon qui a fait le record de France du 200, je crois, cadet. Elle a fait, je crois, championne d'Europe aussi. Il y avait des bonnes choses, quoi, auxquelles il m'a initié. Donc finalement, ouais, je me suis construit avec lui une structure de haut niveau, quoi, avec le kiné, l'ostéo et tout, quoi.
Comment t'en es venu à lui? Pourquoi lui? Comment ce choix-là s'est fait?
Quand j'ai quitté, avant j'étais avec François Pépin, l'entraîneur de Leslie Jones et Marc Raquil. Mais ça ne se passait pas bien, justement je me blessais chaque année à l'ischio. Et donc ça m'a arrêté dans ma progression et donc j'ai voulu changer de structure un peu en finissant mes études. Donc j'avais le choix, j'étais un peu hésitant entre Montpellier et ici. Mais du coup, j'ai décidé de venir ici parce qu'il y avait aussi un athlète qui s'appelle Loïc Prévost, qui a été vice-champion du monde avec moi. Là. C'était une opportunité de s'entraîner avec quelqu'un du même niveau que moi. Et bon, finalement, il n'est pas resté. Mais ce qui me fait rester encore avec Franck, c'est quand j'ai discuté avec lui, c'est qu'il avait une approche un peu plus ouverte de l'athlétisme. Il connaît déjà beaucoup de choses, mais il est ouvert à d'autres connaissances. C'est ce qui me plaît chez lui. Et puis aussi, humainement, il est vraiment top, quoi, en fait. Il m'a hébergé pendant un mois, le temps que je trouve un logement quand je suis arrivé. Là, je suis un peu en galère de logement, il m'a aidé aussi. Donc, humainement, c'est quelqu'un de génial, quoi, et c'est ce qui me fait rester aussi.
Ici, tu as aussi les conseils d'Emmanuel Biron, qui est un autre athlète d'origine martiniquaise. Oui. Qu'est-ce qu'il t'apporte, lui, qui a une expérience du haut niveau?
Alors, lui, c'est un sprinter et tout, donc il m'apporte plutôt sur des petits conseils sur les départs, les intentions à mettre en explosivité et tout. Et puis, comme c'est aussi un athlète, quand il était vraiment performant, il avait des partenaires aussi, donc il me conseille des fois sur comment aller voir les mairies, enfin, même si je ne l'écoute pas tout le temps, mais il me dit de ne pas hésiter à aller voir les mairies, les différents partenaires et tout, avec mon palmarès, quoi, leur présenter, et de ne pas rougir de ce palmarès et de foncer, quoi. Donc, c'est des conseils qu'il peut me donner. Il n'a pas un poste d'assistant coach, par exemple. Il est préparateur physique des jeunes, souvent de l'Olympique lyonnais. Donc, il est souvent sur la piste. En plus, là, il a un projet de reprendre l'athlétisme. Donc, il s'entraîne avec mon coach. Donc, il nous fait profiter un peu de son expérience à ces occasions-là.
Tu es clairement sur un pic dans ta carrière. Troisième meilleur performeur français sur 400 mètres, derrière Leslie Jones et Marc Raquil. C'est quand même pas rien, ça te présente bien. Comment tu te sens en ce moment dans ton athlète?
Franchement, je me suis senti hyper bien dans la saison. J'ai perfé tout au long de la saison, j'ai vraiment perfé de malade, quoi, en fait, quand on regarde. Je me suis dit, bon, c'est bon, là, je suis en forme et tout. C'est sûr, cette année, je fais moins de 45 secondes. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais je sais que j'étais très régulier. C'était la meilleure saison de ma vie. Il n'y a pas beaucoup de Français, déjà, enfin, en faisant 45-05, il n'y a pas beaucoup de Français qui l'ont fait, du coup. Mais autant être aussi régulier tout au long de la saison, c'était vraiment une bénédiction de que ça se fasse comme ça.
On peut parler du 400, justement, c'est une discipline qui est compliquée. T'es entre le sprint et le demi-fond, c'est à la fois, faut aller très vite, mais c'est infiniment tactique parce que c'est une course où les acides peuvent monter, c'est suffisamment long pour que ça puisse être douloureux, quoi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'avant, j'abordais le 400 en me disant, bon, je tiens le 400, donc il faut juste que je faisais du 800. Je me dis, bon, je pars vite et après je tiens. Mais finalement, il ne faut pas être aussi bête, du coup. C'est vraiment de la gestion de course où il faut quand même sentir ce qu'on fait. Et d'ailleurs, la saison précédente, c'était un peu ce qui me manquait, où j'essayais de sentir des choses, mais c'était compliqué. J'ai eu du mal à rentrer dans cette saison-là, même si finalement, je fais quand même mon record perso, mais j'avais pas senti mon allure. Soit j'allais trop vite au premier 200, je me crispais, soit j'allais trop lentement, j'étais trop relâché. Et en fait, c'est des intentions qu'il faut donner en haut et en bas du corps un peu différentes. Il faut être relâché du haut du corps, mais aussi tonique du bas du corps. Il faut réussir à délier tout ça sous le premier 200. Et puis après, bon, quand on a passé le premier 200, il ne faut pas relancer non plus à fond parce que sinon on perd toute l'énergie. Donc il y a tout ça, tout ça qui rentre en jeu. Et après, bon, ça c'est mon profil de course. Il y a des gens, ils vont peut-être partir quand même plus vite parce qu'ils savent que s'ils partent lentement, dans tous les cas, ils seront hyper lactiques après. Moi, j'ai quand même, on va dire, cette aptitude à résister à l'effort. Donc,
je t'ai même entendu dire en interview que tu pensais que le fait d'avoir fait de la natation te donnait un gros finish, enfin un meilleur finish que d'autres.
Ouais, c'est vrai que ben, du coup, via la natation, j'ai l'habitude de finir bien mes courses. Avec ma capacité pulmonaire, on va dire que peut-être que je tamponne un peu mieux les acides lactiques. On a fait des tests avec l'équipe de France où on a vu que quand on fait la prise de lactate après une course, je descends assez rapidement. Donc du coup, je tamponne bien. Bon, je monte quand même, hein, mais peut-être que j'ai mieux travaillé cet aspect-là vis-à-vis de la natation. Donc c'est pour ça que je renie pas mon passé de nageur. Justement, j'en suis fier.
Il y a cette barre symbolique des 45 secondes. On a du mal à se rendre compte. Est-ce que, par exemple, à l'entraînement, c'est une barre que tu arrives à passer? Est-ce que c'est une barre que tu as déjà passée en dehors de compétition?
Non. Bon, on s'entraîne, généralement, on fait pas... Enfin, en tout cas, dans mon cas, je fais pas de 400 simples. Ça peut arriver, mais bon, généralement, en entraînement, on va jamais aussi vite qu'en compétition. Si ou des séances avec des... en faisant des 150 ou des 200 répétés, je sais que je peux faire moins de 45. Quand c'est un peu la concentration qui manque à l'instant T. Donc c'est ce qu'il faut travailler, quoi, un peu de concentration. 5 centièmes, c'est rien du tout. Hein. Il aurait fallu peut-être que je passe un peu plus vite de 5 centièmes et je l'aurais fait, quoi. Donc pour le coup, je sais que je les ai dans les jambes, quoi.
C'est la barre pour les JO, c'est ça? La barre qualificative, elle a 45.
Oui, c'est ça, 45-0, oui.
Alors, on va revenir aux JO en individuel, mais je voulais parler des relais d'abord. Ça aussi, c'est évidemment très tactique et très technique. La France a une vraie spécialité sur les relais. Comment ça se passe, ce travail? Parce que, pour le coup, tu n'es pas avec les autres avec qui tu fais le relais ici à Bondy.
Mais c'est vrai qu'en tant que relayeur de 4x4, généralement, quand même, on s'entraîne principalement en individuel, chez soi. Il y en a certains qui ont d'autres cours de 400 avec eux. Donc ça peut aider sur une certaine cohésion d'équipe. Après, les passages de témoins sur le 4x4, c'est des choses qu'on travaille une semaine avant, généralement. C'est pas non plus sorcier. On n'est pas à des vitesses énormes comme sur le 4x100. Donc il n'y a pas autant de précision. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un certain flair sur le passage. Et c'est des choses qu'on travaille. Je pense que ça se travaille un peu avec la cohésion, tout ça. Enfin, en se connaissant mieux, on a plus de chances de mieux faire des passages. Et puis, pour moi, la performance individuelle sur le 4x4, plus on est fort sur l'individuel, et ça pourra mieux se passer. Quand on regarde les Américains, ils sont tous en 43 et tout, et forcément, ils sont premiers. Donc, c'est sûr, c'est pas qu'une addition de performance individuelle, mais c'est une grosse partie de ça.
C'est un travail qui rapporte des médailles. On l'a vu, la plus belle, c'était à Budapest avec la médaille d'argent au Mondiaux. Comment tu expliques cette performance? Tout le monde désespéré de l'athlétisme français en se disant on va pas avoir de médaille. Finalement, dans les derniers jours, vous êtes venu nous sauver. Comment tu expliques que ça ait fonctionné? Vous y croyez?
Ouais, clairement, nous, depuis au moins un an, on y croyait. Depuis la médaille de bronze à Munich, on n'était pas très loin du record de France et on savait qu'on allait forcément faire record de France cette saison avec les Français. Là, il y a Théo Andante qui a fait la 6e ou 5e meilleure paire française de tous les temps aussi en 45-18. Il y a David Tombé qui a fait un gros 400 aussi depuis le début de la saison. Il était très régulier aussi. Donc on savait qu'on allait faire record de France, et en faisant record de France, on savait qu'on allait potentiellement faire une médaille à ces championnats-là. Donc on était convaincus de ça depuis le début. On était tous en cohésion sur ces projets-là. On avait tous la même idée de médaille. On a fait du travail de cohésion avec une psychologue de la Fédé pour bien être à l'unisson, chacun sur ces objectifs-là, et on était en accord entre nous-mêmes. Et c'est ça qui a contribué à cette réussite.
Qu'est-ce que ça fait de monter sur une boîte championnat du monde?
Je suis pas très émotif généralement, mais ouais, j'ai senti une petite larme qui venait. J'ai pas pleuré, mais c'était pas loin. Donc, ouais, c'est beaucoup de fierté et de fierté par rapport à tout le travail qu'on fournit. Enfin, ça donne envie de refaire ça, en fait, tout simplement. En plus, on n'était pas premier, mais il y avait quand même beaucoup de supporters français qui ont senti la Marseillaise. Donc, c'était presque comme si ça avait le goût d'une médaille d'or, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça sera encore si on le fait au JO? C'est ça, il y aura encore plus d'émotions, plus de vibrations et puis de joie, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette médaille? Tu me disais notamment les sollicitations médiatiques depuis, c'est dingue, quoi, par rapport à ce que c'était avant.
Ouais, il y a beaucoup plus de sollicitations médiatiques. C'est un peu dur des fois à gérer, vu qu'on n'a pas l'habitude et qu'on est tous un peu gentils, on a envie de faire plaisir à tout le monde et de répondre oui à tout le monde aussi. Mais il faut savoir gérer. En plus, moi, là, avec le travail, il fallait que je rattrape des heures, mais en même temps... Il fallait que j'aille faire des événements, des choses comme ça. Et c'était compliqué de dire non, mais ça a quand même des points positifs sur l'aspect financier.
Ça facilite avec les sponsors, j'imagine, aussi.
Ouais, ça facilite beaucoup. Forcément, pour maintenant organiser des stages à l'étranger, il y a forcément des limites financières, mais beaucoup moins qu'avant. On peut mieux s'organiser, mieux gérer cet aspect-là, quoi.
Pour revenir au relais, il y a beaucoup d'Antillais dans cette équipe de France. Est-ce que ça joue dans la cohésion, selon toi?
Oui, ça joue, parce que bon, on est entre personnes qui, on va dire qu'on se reconnaît entre nous, quoi. Bon, moi, c'est surtout avec Ludwig Vaillant que...
Ouais, ça date même d'avant.
Oui, ça date même d'avant. Bon, on avait fait les championnats d'Europe Espoir aussi en 2017 à Bydgoszcz. On avait fait 3e à ce moment-là. Donc depuis, même avant, on avait fait aussi les championnats d'Europe par équipe à Lille. On avait fini 3e aussi. Donc ouais, et puis en Martinique, on se connaissait déjà bien. Donc c'est une grande amitié entre nous. Et donc le fait de l'avoir à côté, on est un peu plus serein. Enfin, je sais pas pour lui, mais pour moi, le fait d'avoir un visage aussi familier que ça, c'est cool, franchement. On se parle créole dans la chambre d'appel et tout. Donc on se motive en créole et ça, c'est sympa, ouais.
C'est plaisant d'avancer dans le haut niveau avec un repère qu'on connaît aussi bien de son île en plus.
Ouais, Ludwig, c'est quand même The Athlete aussi, hein, quand même. Il a été 4e au championnat d'Europe et tout. Il avait le record de Martinique du 400. Donc c'était aussi un point, enfin une petite croix à cocher de dire ben, je suis Goukou le 400, donc je veux le record de Martinique. Bon, je lui en ai parlé, il m'a dit ça, il était temps que quelqu'un le prenne. Il faut avoir un ami comme ça. Finalement, bon, on n'a pas de compétition vraiment entre nous, hein. On n'est pas en train de se dire oui, je vais te battre, machin chouette, mais il y a peut-être un peu de, enfin finalement qu'on regarde les résultats de chacun, on essaie de faire en plus ou moins mieux que ça. Je sais que j'avais fait des séances avec lui, par exemple des séances d'escalier où c'était chronométré, et on se tirait la bourre comme ça, quoi. On essayait de faire mieux que l'autre, et donc ouais, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme ça à côté.
Pour parler de ton expérience olympique, 2021, c'était la première pour toi au JO à Tokyo avec les relais. Qu'est-ce que ça fait d'aller au JO? Quels souvenirs tu en gardes, même si c'était des JO un peu particuliers?
Ouais, pour le coup, j'en garde surtout cet effet particulier. C'était le JO de Covid. On était confinés pendant une dizaine de jours avant d'aller sur le village. C'était compliqué pour moi. C'était une belle expérience, c'était à faire. Si c'était à refaire, je l'aurais refait, mais... C'est vrai que j'étais pas dans des bonnes conditions, je trouve. Après, en plus, bon, l'ambiance sur le stade et tout était complètement dénaturée, quoi. Puis en plus, ben, il se trouve que j'avais fait champion de France, deuxième perf de l'année, et finalement, j'étais pas titulaire sur le relais en série. Et les sélectionneurs, ils avaient dit qu'ils voulaient mettre la meilleure équipe possible, et je faisais pas partie de cette équipe, donc. J'étais très déçu. Finalement, j'ai couru parce qu'il y a un athlète qui s'est blessé 15 minutes avant d'entrer en chambre d'appel. Donc, j'ai dû le remplacer. Finalement, je fais la meilleure perf de tous les relayeurs. Bon, après, il y a le lanceur Thomas Jordi qui a fait moins bien, mais qui a fait... c'est pas lancé, donc il a couru très bien. Enfin, faut pas se comparer comme ça non plus, mais j'avais fait une très bonne perf pour en comparer aux autres quand même. Donc, c'est une certaine revanche, mais je me suis aussi dit... Enfin, de cette expérience, j'en suis ressorti un peu énervé, mais surtout motivé pour plus que ça se refasse, quoi.
Ça veut dire que ça te donne faim pour 2024, ça te donne envie de l'Olympisme encore plus fort, quoi.
C'est ça, et puis les années d'après même, je me suis dit non, plus jamais, je laisserai les autres juger comme ça de ma saison, quoi, finalement. Et du coup, après, j'ai refait des grosses perfs qui m'ont un peu rendu indiscutable. Et l'objectif, c'était surtout de faire, d'être en individuel, de penser à mon individuel avant de penser à du relais. Et le relais, ça a été qu'un truc supplémentaire. Pour moi, c'est ça mon objectif, c'est de faire des gros trucs en individuel. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à mieux m'épanouir et voilà.
C'est-à-dire qu'en perspective de Paris, tu ne te motives pas qu'avec le relais, la priorité c'est d'y aller en individuel, clairement.
C'est ça, ouais, c'est clairement ça.
Le fait que ce soit à Paris, ça change quelque chose aussi, j'imagine, dans la motivation?
Finalement, qu'on le veuille ou non, ça change quelque chose, parce que c'est les JO, c'est à Paris, c'est à la maison. Il y aura tous les supporters, toute la famille aussi, et toutes les retombées qu'il peut y avoir d'une plus ou moins bonne performance. Donc ça change quelque chose, ça décuple la motivation. Mais en même temps, il faut quand même rester bien posé. Il ne faut pas non plus se dire « Ok, c'est à Paris, je vais révolutionner l'entraînement et tout. » Il faut continuer dans ce qu'on sait faire, finalement. Et c'est comme ça qu'il y a les meilleures chances de réussir.
Est-ce que le relais sera médaillé à Paris? Je te demande de te mouiller, là, aujourd'hui.
Oui, le relais sera médaillé à Paris.
On a toutes les raisons d'y croire.
Oui, voilà.
On a parlé de cette préparation, du temps que ça peut prendre. Est-ce que tu prends le temps de décompresser à côté? T'es rentré en Martinique, j'imagine que ça c'est important pour toi.
Oui, je suis rentré, c'était notamment par rapport à des sollicitations. Mais oui, pour voir la famille aussi, ça me permet de décompresser. Et puis ouais, juste le fait de rentrer, le rythme est un peu moins speed. Puis on va à la plage et tout, ça, franchement ça te détend. Donc est-ce que je prends le temps de décompresser? On va dire cette année, pas assez. Généralement, oui. Mais cette année, j'étais un peu plus stressé que d'habitude. je vais pas mentir. Bon, je prends quand même du temps pour moi, un peu plus. Bon, là, on voit pas, mais j'ai pas fait les contours, par exemple. Et c'est quelque chose qui... c'est quelque chose que j'aime bien faire et tout. Me dire, ok, je prends soin de moi quand même. Donc, voilà.
T'as d'autres loisirs justement, je sais pas, musique, série, je crois que t'es très jeux vidéo notamment.
Ouais, j'aime bien les jeux vidéo. Là, ça fait 2 ans que j'ai pas joué vraiment, mais ouais, j'ai une PlayStation qui prend la poussière là. J'ai la Switch aussi où je jouais avec des potes à Fortnite. Après, je suis plus sur un peu les jeux d'aventure, Assassin's Creed. Là, avant, je jouais un peu plus à Horizon. C'est un jeu d'aventure découverte un monde ouvert, quoi. Donc c'est plus ces jeux où on prend plus de temps qui sont bien, parce que sinon, quand on joue à des jeux comme Call of Duty et tout, il faut jouer tout le temps, et puis il faut être réactif et tout. Sur la PlayStation, c'est pas le meilleur, quoi.
Et musique, série, t'écoutes de la musique?
Ouais, j'écoute de la musique. Bon, j'écoute sur une plateforme de streaming, quoi. Peut-être pas tout, hein, mais j'écoute une grande variété quand même de musique. Rap français, rap US, dancehall. Voilà, et puis en série, ouais, je... C'est assez classique, hein. Après, je regarde des mangas depuis...
Ouais, j'ai vu que tu avais une vraie passion manga.
Ouais, c'est mon frère qui m'a un peu initié à ça. Depuis collège et tout, on avait commencé par les classiques Naruto, Bleach, One Piece, quoi. Hunter x Hunter. Donc, ouais, depuis, je regarde de temps en temps. Bon, je pense qu'il y en a qui sont vraiment accros à ça, quoi, qui voient que ça. J'ai des périodes quand même où je regarde plus ou moins. Là, ces temps-ci, justement, quand je me rends compte que j'ai un peu moins de temps, parce qu'il y a certaines choses que je ne fais pas aussi régulièrement qu'avant. Avant, je lisais mes scans de One Piece et d'autres mangas chaque semaine. Et là, ça fait 6 mois et tout que je n'ai pas fait. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'ai changé un peu de vie et tout, j'ai plus autant de temps. Et après, je pense que c'est des choix. Peut-être que dans quelques temps, je vais retourner là-dessus et puis... Voilà, il ne faut pas trop s'inquiéter.
On l'a un peu évoqué tout à l'heure. J'ai cru comprendre que tu aimes bien cuisiner. Enfin, tu aimes bien te préparer à manger.
Je suis un petit cuistot dans l'âme. Non, mais ouais, j'aime bien cuisiner des bons petits plats. Parce qu'en plus, ça fait aussi partie de l'hygiène de vie d'un athlète. Pas faire tout le temps manger des plats transformés et tout. Parce que même pour la santé, on sait que ça accentue certaines morbidités, on va dire. Ça peut aller vers le diabète, l'obésité... tension et tout, et j'aime bien avoir des ingrédients simples, non transformés à faire. Et puis, ben, on venant de Martinique aussi, avec une famille qui faisait bien à manger, je me devais de savoir faire à manger, quoi.
Est-ce que tu cuisines antillais, justement, parfois?
Parfois, ça peut m'arriver, mais pas tout le temps. Est-ce que c'est vraiment antillais? Je fais des plats que ma mère faisait. Je fais du velouté, pas de giraumon, c'est du butternut qui ressemble. Donc ça, c'est petit velouté, ça fait un peu elfi aussi, un peu lentilles et tout, lentilles riz. C'est pas forcément antillais, mais je trouve que ça me rappelle un peu ce que je mangeais avant. Le poisson, j'ai du mal à en faire vraiment. Enfin, j'aimerais en faire plus. Mais en Martinique, on a forcément plus de poissons frais et tout. C'est pas les mêmes poissons qu'on retrouve, mais oui, j'ai déjà fait du poisson frit. C'est ma mamie qui en faisait beaucoup. C'est pour moi le meilleur poisson frit d'ailleurs. Et puis, gratin de banane jaune, c'est le meilleur gratin du monde. J'en ai déjà fait, mais là, ces temps-ci, là où je suis, il n'y a pas le four qu'il faut. Donc voilà, et puis des fois les bananes qu'on retrouve ici, je trouve qu'elles n'ont pas le même goût. Donc je suis un peu pointilleux.
C'est du genre à ramener des produits de Martinique?
Ouais, clairement, Martinique, ouais. Je ramène. Quand je suis rentré de Martinique, là, j'ai ramené 6 ou 7 avocats, des gros avocats de la taille de ma tête, et avec des prunes de citerne, ouais, une vingtaine de prunes de citerne, bon, ils ne se sont pas abîmés sur le trajet. Je ramène souvent du miel de Martinique, du chocolat, des choses comme ça, ouais. Et puis après, il y avait un petit truc de. Enfin, on t'envoie des recettes avec les ingrédients à faire. J'aimais bien faire ça, ça simplifie un peu parce que des fois on n'a pas d'idée de recette et du coup ça m'aidait à faire des bonnes recettes que j'aimais bien. En plus, des fois ils donnaient des recettes asiatiques et j'aime bien manger asiatique aussi. Donc je faisais ça et tout. Ça m'aidait à penser à autre chose finalement, cuisiner. On pense à cuisiner et tout. Et puis voilà.
Ça permet de décompresser aussi.
Voilà.
On peut parler de GTA Lactic City. qu'est-ce que c'est exactement que ce programme que tu as développé sur tes réseaux sociaux?
Ben ouais, c'était une petite idée que j'ai eue par rapport à un autre créateur de contenu qui fait du vélo. Il s'appelle Fabio Wimber, je crois que c'est un Autrichien. Et lui, il avait fait son projet de GTA in real life. Du coup, je me suis dit, ah, mais c'était trop bien et tout. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Il y avait déjà à l'origine juste l'idée de refaire des visuels qui ressemblaient à GTA. J'avais juste fait une image et je me suis dit, mais ce serait bien de l'animer. Comme dans GTA où il y a un fond et le personnage qui bouge un peu. Et je me suis dit, mais ce serait bien de faire la vidéo carrément et tout. Mais c'est là que ça serait un peu plus compliqué. Parce que moi, je ne peux pas faire la vidéo, je peux pas me filmer moi-même en mode GTA. Donc à l'origine, j'ai fait un appel à un étudiant et tout. Et ça n'a pas bien fonctionné. De fil en aiguille, bon, c'était depuis février de l'an dernier. Hein, que j'avais cette idée-là. Finalement, j'ai rencontré un vidéaste qui était chaud pour vraiment m'aider à le faire. Donc, on a fait ça. On avait plusieurs idées. Il y a encore d'autres idées qui peuvent. Enfin, GTA, c'est un monde énorme aussi. Donc, on peut encore refaire d'autres idées là-dessus, quoi.
Et donc, il y a eu 3 épisodes. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus ou
Non, là, c'est fini. Il n'y a pas d'autres de prévus. Mais on peut... Enfin, j'aimerais bien continuer sur une autre petite série. Plutôt... Toujours peut-être GTA, mais rajouter des petits aspects de préparation olympique. Rajouter le mot olympique dedans, quoi. Il y aura peut-être de petits projets comme ça. Mais ouais, je me suis un peu formé moi-même sur le montage vidéo, montage d'image, parce que la photo en soi, j'en fais pas. Et puis, vite fait, sur motion graphique et tout, je pique à droite à gauche sur YouTube et tout, je fais des trucs. J'ai le logiciel qu'il faut. Si j'avais pas fait du urbanisme, peut-être que je serais allé dans cet aspect vidéaste-là.
Ça permet de faire la transition sur tes réseaux. Tu filmes ton quotidien sur tes réseaux, tu te montres des fois sur ton vélo, sous la galère, sous la pluie.
Ouais.
Qu'est-ce que ça t'apporte justement? Pourquoi faire ce choix d'avoir des réseaux vivants où il se passe des choses, où tu montres des choses,
hein? Ben, clairement, je le fais principalement pour les partenaires potentiels, quoi, en fait. Enfin, avoir une certaine communauté, ça avantage par rapport à certains partenaires. Donc à l'origine, c'est plus ça. Après, bon, j'essaie de rester quand même plutôt naturel et je suis quand même de nature plutôt un peu introverti, quoi. Donc, comparé à d'autres, je partage pas beaucoup. On me dit, mais moi, mais tu devrais partager plus souvent et tout, parce que là, j'ai eu une petite période où j'ai pas beaucoup partagé. Parce que ben, forcément, j'étais un peu plus submergé. Donc, ouais, c'est pas mal pour ça. Mais après, finalement, quand je le fais, ça m'amuse bien de le faire comme ça.
Ça permet de parler rapidement de l'aspect mental. Bon, clairement, en ce moment, ça a l'air d'aller pour toi. Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles dans une carrière? Est-ce que tu l'as déjà ressenti, toi, personnellement?
Il y a déjà eu des moments plus difficiles, comme je disais aux JO. Mais bon, je n'ai pas trop de difficultés à rebondir, quoi, en fait. Je suis quelqu'un qui cherche toujours une solution, en fait. Déjà, même, on m'a même déjà reproché ça. De pas être juste assez compatissant de dire « Je veux trouver une solution » avant de dire « Oui, non, t'inquiète, ça va aller. » Je veux trouver une solution et aux choses qui ne vont pas. Pour moi, je me l'applique pour moi aussi. Avant de me morfondre vraiment, je me dis « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon problème s'arrange, quoi, en fait, tout simplement. »
Tu ne doutes jamais longtemps, donc?
Non, pas longtemps.
Tu as quand même un accompagnement mental
ouais.
Dans ton quotidien
Depuis 2021. Je suis accompagné par ma préparatrice mentale qui s'entraînait en Martinique, enfin qui est kiné de base. Et elle avait fait, je ne sais plus, un ou deux ans peut-être en Martinique. Et elle était dans mon club. Donc finalement, elle a fait une formation de préparation mentale. Et elle m'a proposé de tester avec elle, quoi. Finalement, et ça s'est bien passé. Quand j'ai commencé avec elle, j'ai fait mon record. L'année dernière, j'ai fait un peu moins parce que je n'avais pas autant de budget. Et ça s'est moins bien passé, même si j'ai réussi à m'en sortir. Et là, cette année, j'ai repris un vrai programme avec elle et j'explose encore tout. C'est pas que ça, mais je pense que c'est très bénéfique pour moi.
C'est loin d'être négligeable et c'est indispensable aujourd'hui quand on veut viser du haut niveau.
Oui, c'est ça, oui. C'est indispensable pour moi, oui.
Gilles Biron, après sa carrière, il sera dans l'athlée, il sera dans l'urbanisme, il sera dans la vidéo, dans la création graphique.
Là, j'ai envie de dire plutôt quand même dans l'urbanisme. Après, je ne m'interdis pas de totalement changer justement et d'être peut-être dans la création graphique et tout. Franchement, j'ai commencé à suivre des comptes de motion design et tout et ça me donne envie. Après, des fois, je doute des fois sur... Que souvent, je récupère des idées d'autres personnes que je mets un peu à ma sauce forcément. Mais de créer de rien du tout comme ça, partir de rien, pour le moment, je ne m'en sens pas capable. Donc, on verra bien, mais...
On l'a évoqué, tu es toujours licencié en Martinique, comme a dit Nina Adlé. Est-ce que la transmission, est-ce que le partage, est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à un moment?
Transmission, oui. Coaching, non, pas trop. Quand je suis avec les camarades du groupe et tout, j'aime bien donner des exos d'abdos, de gainage et tout. Ça me plaît bien, mais c'est juste ça, quoi. Mais vraiment, créer un plan d'entraînement avec un pic de forme, tout ça... Forcément, il faut faire les études dessus et j'ai pas envie de me replonger là-dedans. Moi, je vais juste continuer à faire du sport et tout. Peut-être retourner à la natation, faire du triathlon, puisque là, finalement, j'ai fait de la natation, je viens à vélo à l'entraînement. Je fais de la course. Peut-être un triathlon, on sait jamais. Hein. Enfin, peut-être que je vais passer par là. Hein. Mais ce sera que du plaisir, de toute façon.
Et la transmission avec les jeunes de ton club, j'ai vu quand tu étais en Martinique, tu as été les voir, c'est enthousiasmant ça j'imagine.
Oui, franchement, oui, cet aspect transmission, oui, j'y tiens. C'est plus vers ça que je me verrai plus tard. Partager l'expérience, motiver les gens, dire que ben, moi j'ai commencé l'athlétisme tard, et forcément les jeunes qui sont là, ils ont envie d'être les futurs champions et ils sont pressés. Quoi, j'aime bien leur dire qu'il ne faut pas être pressé spécialement à cet âge-là. Il y a le temps encore et de ne pas s'inquiéter. Quoi.
Gilles, on est à quelques semaines des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter jusque-là?
Ben, on peut me souhaiter d'être heureux déjà et puis d'être en bonne santé, de ne pas me blesser et d'être performant.
Et une grosse fête en Martinique après pour fêter les médailles.
Ouais.
Super, merci beaucoup Gilles.
De rien.
À bientôt.